Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand.
Bonjour, Maëva Borin, comportementaliste canin. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'émission Un chien est un chien sur CFM. Un rendez-vous tous les lundis à 12h30 et puis on se retrouve aussi le soir à 21h30. C'est une émission qui est consacrée à la relation animale, le chien lui-même, ses comportements et son éducation. Donc, je souhaitais revenir par rapport à la semaine dernière. Donc, on avait abordé ensemble la différence entre un comportementaliste et un éducateur canin. Et j'ai toujours à cœur de vouloir vous transmettre plein de choses et je suis vite prise par le temps. Donc, voilà, je souhaitais faire un tout petit complément avant d'enchaîner sur le sujet du jour. Le complément que je souhaitais vous apporter pour vraiment différencier éducateur et comportementaliste, c'est qu'un comportementaliste, en fait, va se tourner vers d'abord l'humain, pour ensuite aller se diriger vers le chien, donc en fait, ou après on travaille ensemble, certes. Et l'éducateur canin, c'est d'abord on passe par le chien, et potentiellement ça fait modifier certaines choses chez l'humain. En tout cas, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut le voir, ça peut nous permettre de mieux comprendre un petit peu, et d'où la différence, en fait, un éducateur canin, pourquoi lui, il va plutôt agir sur, entre guillemets, la périphérie de la relation, et nous, en tant que comportementalistes, on va vraiment au cœur de la relation entre l'homme et l'animal, et voir les dysfonctionnements et les incohérences et les incompréhensions entre l'un et l'autre. Même si l'éducateur canin, d'une certaine manière, selon son parcours, fera plus ou moins la même chose, mais il va se concentrer d'abord sur modifier les comportements du chien, et nous, modifier les comportements de l'humain. Donc voilà un petit peu la différence, et surtout en termes de formation, nous en tant que comportementalistes, on a une base de connaissances en psychologie humaine. C'est la grosse différence, c'est ce qui n'est pas transmis dans les formations d'éducateurs canins. Ce qui manque pour moi, bien évidemment, mais bon, on peut pas refaire le monde, mais c'est là où pour nous on est vraiment complémentaires entre consoeurs et confrères, éduques et comportementalistes. Voilà, ce qui est important pour moi que vous sachiez aussi, c'est que par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est tout simplement de faire le lien entre l'apparition des métiers tels qu'éducateur canin, comportementaliste, et l'origine de la relation homme-animal. Actuellement, mon point de vue, il est qu'on réinjecte seulement les connaissances et on les augmente. Ou on va aller les expliquer autrement, et même on fait des liens entre tout ce qui a été découvert, parce que il n'y a pas qu'en France qu'on fait des recherches, c'est dans le monde entier. Et dans le monde entier, il y a des tas d'informations qui sont intéressantes, qui permettent de comprendre comment un chien fonctionne de manière globale, et surtout les liens entre l'homme et l'animal. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de vous transmettre ça, parce que on n'invente rien vraiment aujourd'hui quand on parle de comportement. On découvre de nouvelles choses certes, mais on n'invente rien. Donc voilà. Alors, ce qui est important pour moi également, ça fait le lien avec tout ce que je vous disais là, c'est que toutes les infos que je vous transmets là aujourd'hui et dans l'émission suivante, parce que là on va voir la première partie de l'apparition en fait de ce métier, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, donc j'ai souhaité vous faire en deux épisodes. J'ai trouvé ça plus léger et sympa pour vous. C'est que toutes les infos que je vous transmets, elles sont vulgarisées et synthétisées. Parce que sinon, on serait en formation pure, et c'est pas le cadre, en tout cas, dans lequel on est aujourd'hui. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Moi, je souhaitais vous commencer par l'apparition de l'éthologie. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a pas mal d'infos que je vais vous transmettre qui sont issues d'une formation que j'ai faite avec le professeur Bertrand Depute, qui est éthologue, et c'est le premier éthologue à être rentré à l'école vétérinaire Maison Alfort à Paris, qui donne aujourd'hui des cours déjà depuis un bon moment, mais en tout cas c'est une première depuis toutes ces années. Donc comme quoi tout évolue, donc c'est une très bonne chose, et j'ai souhaité réinjecter certaines choses que j'ai pu voir durant sa formation que je trouvais très pertinentes par rapport au sujet que j'aborde aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on observe en fait plutôt, depuis toutes ces années, le monde animal, en fait, il fascine. Il fascine depuis toujours et on va même remonter au niveau du XVIIe siècle. On commence par Descartes. Descartes qui considérait les animaux, comme de purs automates. En tout cas, c'est ce qui est retenu de Descartes à l'époque. Versus d'autres naturalistes à la même époque qui, par observation, admettaient tout de même que les animaux avaient des compétences comportementales assez complexes. Donc il y avait déjà une divergence d'opinion et d'observation et de conclusion à l'époque, même d'affirmation ou de théorie, on pourrait mettre beaucoup de termes autour de ça. Qui fait qu'aujourd'hui, la fascination du monde animal, elle est toujours aussi présente. Ce qui était assez drôle, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y avait déjà un débat existant à l'époque sur la notion de « est-ce que l'animal a une conscience ?» Ça, c'était comparé à, enfin, ou plutôt controversé avec la notion de « non, le chien a seulement des instincts ». Qui rejoint en fait les hypothèses de Descartes, en tout cas même les affirmations de Descartes, qui nous dit non, c'est simplement des automates. Et puis le temps avance et on arrive en 1968 où un lieutenant des chasses de Versailles qui s'appelle Charles-Georges Leroy qui nous dit dans ses lettres aux animaux, j'ai souhaité vous lire ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant et on est quand même en 1700 et c'est pour ça que je vous disais en tout début d'émission qu'on n'a rien inventé et les réflexions sont là déjà depuis bien longtemps, mais comme quoi faire changer les mœurs c'est long et ça prend du temps et tout dépend le système éducatif dans lequel on est. Allez, je vous fais deux trois petites phrases de monsieur Charles-Georges Leroy. Je dis, monsieur, que les bêtes sentent comme nous, et je crois que pour penser autrement, il faudra absolument fermer ses yeux et son cœur. Je vous le lis en vieux français. Il me paroît donc impossible de ne pas admettre les sentiments dans les bêtes. Les plus obstinés partisans de l'automatisme leur accordent encore tacitement la mémoire, car ils veulent des chiens sages et les corrigent. Si, je ne sais pas ce que ça génère chez vous, mais je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait tenir encore le même discours en fonction des personnes que l'on rencontre. De plus en plus, nos observations et puis nos recherches et notre conscience évoluent. Donc, on va vers une autre considération de l'animal, ce qui est pas plus mal, je dirais.
Africa, my love, I've been dreaming for a long time. To see your landscape again for a long, long dream. Africa, my love, I've been dreaming for a long time. To see your landscape. For a long, long tree. You keep so much beauty in your soul. You hide somewhere else in your heart. And fortunately, ripping the lies and corruption are killing you. Africa, my love, I've been dreaming for a long time to see your landscape again for a long, long dream. Find inside yourself strength to get up, regain the liberty you've lost. Africa, unite again. By the badger vibrations of Babylon, by the badger vibration. Africa, my love, I've been dreaming for a long time. To see your landscape again for a long, long tree. splicing divided this continent, and what is made by the Occident. They only trying to get your money. How you will it be? How you will it be in 50 or 20 years? Africa is crying, we can feel uncertainty. We can feel uncertainty. Africa, my love, I've been dreaming for a long time to see your landscape again for a long time. Africa, my love, I've been dreaming for a long time to see your landscape again for a long time.
Ceux qui nous rejoignent, Maëva Borin, comportementaliste canin, j'anime cette émission Un chien est un chien, tous les lundis à 12h30 sur CFM. Juste avant cette petite pause musicale, je commençais à aborder tout simplement l'apparition de l'éthologie, en tout cas où on a commencé à s'intéresser au comportement animal. J'ai envie de dire, on remonte à, déjà aux années 1500, donc ça remonte un petit peu. Et puis, je nous amène à faire un petit bond dans le temps. Alors, vous m'excuserez, parce que mon anglais est loin d'être parfait et je risque d'en rire, puisque j'en ai ri avec une amie l'autre fois en disant ce nom, avec un psychologue et professeur d'université américain, un des précurseurs du behaviorisme, donc ça c'est tout simplement comportementaliste en anglais, et il a été connu pour ses recherches sur l'intelligence animale et en psychologie de l'éducation, qui est Edward Sondike. Il nous a permis de découvrir, en tout cas c'est lui qui a mis en avant cette notion de loi de l'effet et loi de l'exercice, commençant à tout simplement à parler d'expérimentation. C'est à partir de là où tout ce qui est expérience sur les animaux commence à être de plus en plus, en tout cas pour comprendre le comportement animal, hein, je parle bien, apparaît de plus en plus. Qu'est-ce que c'est cette loi de l'effet et loi de l'exercice? J'ai envie de dire, c'est des principes en éducation canine que vous connaissez. Tout simplement, la loi de l'effet, c'est quel est l'effet de, je ne sais pas, on va dire, admettons, vous allez, donner une récompense à votre chien et votre chien va comprendre que ce comportement-là a pour effet d'obtenir une friandise. Et la loi de l'exercice, c'est tout simplement cette notion de répétition. C'est-à-dire que si la réponse est stable, ou à chaque fois que le chien propose ce comportement-là, il obtient sa récompense, eh bien, si tous les jours c'est la même chose, alors on appelle ça justement loi de l'exercice, tout simplement parce que le chien a compris ce que ça signifiait et dans le temps parce que la réponse est toujours la même. Donc on renforce le comportement. Donc ça, c'est des notions qui sont pour moi essentielles quand on, parle de d'apprentissage, en tout cas pour le chien. Ces principes, ensuite, ils ont été augmentés et revus, perfectionnés. Il y en a, ça a été en parallèle de ce monsieur dont je vous parlais, avec des personnalités telles que Pavlov, qui est sur la même époque que Edward Sandbach. Et puis, après, on a eu Skinner, qui est aussi venu remettre en cause les théories de Pavlov. Mais en fait, les deux se tiennent. Et aujourd'hui, demain, vous faites une formation d'éducateur canin. C'est tout ce que vous verrez en éducation canine, ça va être sur ces bases-là. Donc, ça, c'est la base essentielle. Et ensuite, on va aussi parler de Konrad Lorenz, qui est relativement très connu aujourd'hui, mais aussi un autre naturaliste et éthologue de l'époque, en tout cas les premiers. Pareil, excusez-moi pour si j'écorche le nom, c'est Tinbergen, qui fait partie, en tout cas, des personnalités qui nous ont bien aidés à comprendre beaucoup de principes de conditionnement et d'association, notamment la base, en fait, du fonctionnement du chien, mais en fait, la nôtre aussi, d'ailleurs, en tout cas, tout ce qui est mammifère. Et même peut-être plus. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes par rapport à ça. L'importance aussi de l'empreinte à l'espèce avec les expériences de Konrad sur les oies. Alors, quand je parle d'empreinte, c'est tout simplement que l'animal se reconnaisse en tant que chien, par exemple, ou une oie en tant qu'oie. C'est tout simplement ça. Et on est seulement dans les années 30-40. C'est les tout débuts de l'éthologie telle qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est réellement jeune, c'est pas quelque chose qui date d'il y a longtemps, et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais en première partie de l'émission au tout début, c'est que nous, sur cette base-là qui est quand même très solide, ça a été remis en question dans certaines, avec certains chercheurs, mais aussi on augmente toutes ces connaissances-là, toujours sur cette base qui est assez incroyable. Je souhaitais vous partager ma propre perception sur ce côté fascinant du monde animal. Ce qui est fascinant chez l'animal, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas. On est dans le non-verbal, on se retrouve souvent dans l'inexplicable, l'inexpliqué, et surtout le non-contrôlable. La nature, mais même sans parler des animaux, quand la nature veut reprendre le dessus, elle reprend ses droits. Et d'une certaine manière, je trouve que chez les animaux, il y a cette part-là, et le lien à l'animal, c'est, je pense aussi pour ça que tant d'hommes, quand je parle d'hommes, c'est d'humains sur la planète, sont fascinés par le comportement animal, parce qu'ils nous apprennent des choses que nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'est pas capable de comprendre, enfin, c'est pas le terme juste, mais en tout cas de fonctionner comme eux à 100%. Donc voilà, c'est en tout cas... Je trouve que cette fascination, elle est assez commune à beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de monde dans ce monde animalier, justement, dont je vous parle, où on a envie de transmettre au monde entier. Moi, la première, si je vous fais ces émissions-là aujourd'hui, c'est pas pour en rien. C'est que j'ai envie de transmettre tout ce que j'apprends parce que c'est fascinant. On en revient à cette notion de fascination. Et pour moi, c'est essentiel de prendre tout ça avec beaucoup d'objectivité. Nous, humains, on adore tout expliquer, tout comprendre. Il faut qu'on sache de pourquoi si, pourquoi ça. Ce qui est, j'ai envie de dire, la curiosité est une très bonne chose. Mais parfois, elle nous dessert aussi. Et c'est là où, en tout cas, dans ce que je vous transmets, moi, au fur et à mesure des émissions, vous verrez, c'est toujours garder une grosse part d'objectivité le plus possible et de ne pas rentrer dans l'anthropomorphisme. Et malheureusement, ce que je vois, moi, c'est un constat, c'est que dans tout ce que je vois tourner sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les vidéos, dans le tas de vidéos ou reportages, c'est qu'il y a, en tout cas, quand on parle d'éducation canine, il y a une surinterprétation de beaucoup de choses et l'empreinte humaine est pour moi très présente. Mais on développera là-dessus plus tard. Il y a beaucoup aussi d'humains qui sont là pour défendre une cause ou défendre des principes ou se les accaparer. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'encore une fois, quand on se base sur tout ce que ces scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure nous ont appris, on n'a rien inventé. Donc, toutes ces notions de méthode, moi, j'ai la meilleure méthode, je suis désolée, aujourd'hui, ça pour moi, ça n'a aucun sens. Quand on sait que ça se base sur des principes scientifiques universels. C'est universel. Donc à partir de là, qu'on ait capté que telle ou telle chose a donné tel ou tel résultat, ça c'est une chose, mais venir dire que c'est la méthode, déjà en aucun cas ça veut dire qu'on sait s'adapter à l'individu auquel on est en face. Mais je ne vais pas m'écarter du sujet. Tout ça pour dire que pourquoi l'humain se tourne vers l'animal ? Pourquoi ? Mais ça c'est une grande question auquel j'ai pas la réponse, j'ai des hypothèses, j'ai des idées. On a commencé par voir qu'il trouvait un intérêt quel qu'il soit, que ce soit la chasse pour commencer. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, on pourrait même parler d'une prolongation de soi, un membre de la famille à part entière. Et depuis, les années 80 approximativement, et comportementaliste un tout petit peu plus tard, apparaissent. Et en même temps, ça apparaît en même temps qu'une évolution de la considération du chien dans les foyers, mais aussi l'apparition des problèmes de comportement. Et c'est là où, pour moi, ces émissions-là, elles sont importantes et elles me tiennent à cœur. C'est comprenons à quel point, pourquoi les problèmes de comportement existent depuis plusieurs années, alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est ce qu'on va voir sur la prochaine émission, enfin en tout cas la semaine prochaine. Et je voulais vous partager une petite info qui, pour moi, est assez intéressante sur ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'il y a un petit reportage qui a été fait par la BBC au Royaume-Uni en 2008, donc ça date un petit peu, mais en même temps, c'est pas si vieux, avec des vidéos du 19e siècle où ils expliquent que le chien devient carrément un symbole de statut social pour certaines classes de population. C'est-à-dire que c'est là où on voit apparaître tous les concours canins sur les races, en fait, hein, tout simplement, d'avoir le plus beau chien, qui était en tout cas très, très important à l'époque. Ça représentait une vraie valeur à ces personnes-là. Comme à l'époque moderne, pareil, les chiens des rois étaient mieux nourris que le peuple, par exemple, était nourri à la viande. C'est pareil, ça je vous ferai peut-être à l'occasion un petit topo sur l'alimentation et l'évolution de l'alimentation. Il y a eu des hauts, des bas. Nos chiens ont eu des époques où ils étaient très bien nourris et d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, on en est sur toute autre chose. Donc voilà ce que je souhaitais vous transmettre, en tout cas, sur l'apparition de l'éthologie et comment on en est venu là aujourd'hui. On va aller plus loin sur la prochaine émission, la semaine prochaine, justement sur ce sujet-là. Donc je vous laisse du coup avec ça. J'espère que il n'y a pas trop d'infos pour vous. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, 12h30, le lundi. C'était Un chien est un chien. Vous pouvez retrouver ce podcast sur cfm.fr. Et ainsi que sur mon site internet et ma page Facebook professionnelle Les Chiens d'Amaé. Amaé, c'est Amaé.fr. C'était Maëva, à la semaine prochaine.
CFM. CFM Villefranche.